40 nuances de Sista. Les Sista d'une ex-40 comme vous ne les avez jamais entendues. Animé par Solène Etienne, cofondatrice du Brain Studio Feuille Blanche.
Parce que vous entendrez encore trop peu de voix féminines parmi les dirigeants du Next 40, nous avons voulu, avec Olivier et Thomas, féminiser à notre manière ce palmarès des champions de la tech en proposant à leurs dirigeants de mettre en lumière une femme entrepreneur qu'ils admirent. Bonjour, je suis Solène Etienne, cofondatrice de Feuille Blanche, et je vous propose de découvrir les 6 stars du Next 40. Une capsule clin d'œil au collectif du même nom, porté par deux femmes entrepreneurs, Céline Lazorte et Tatiana Jama. C'est Erwan Kérodi, le cofondateur de CyberAngel, qui a murmuré le nom de notre invité au micro de 40 nuances de Next il y a pile un an. Ça y est, on a enfin booké le rendez-vous avec celle qui a été entre autres à la tête de la mission French Tech de 2018 à 2021. J'ai nommé Kat Bonlorgan. Salut Kat.
Bonjour Solène.
Merci d'être à notre micro aujourd'hui.
Oui, avec plaisir.
Alors, j'ai le plaisir, double plaisir de t'avoir au micro parce que, alors on en a parlé off micro, mais que ce podcast, il a été fortement inspiré par une mission que tu as menée. Tu as même été une des premières supportrices de ce podcast quand on l'a lancé il y a bientôt 4 ans au sujet du classement du Next 40. Donc, tu es un peu comme à la maison ici et on y reviendra. Je préviens aussi nos fidèles auditeurs que l'histoire de Kat est telle que je vais complètement chambouler l'ordre de cette émission pour comprendre ce qui a amené la petite fille que tu étais, à ces postes que tu as occupés et les portes qu'ils t'ont ouvertes depuis. Aujourd'hui, d'ailleurs, tu es membre du YAS et tu vas nous en parler tout à l'heure de cette nouvelle casquette. On va, comme je le disais, complètement chambouler cette émission et on va plutôt commencer avec cette partie.
Allez, relaxez-vous. Et maintenant, on parle de vous.
Il y a une question que j'adore poser à mes invités, Kat. C'est à quoi tu rêvais quand tu étais petite fille?
Waouh, quoi j'ai rêvé quand j'étais petite? Tu vois, c'est tellement triste de raconter ça, mais on pense que toutes les femmes qui ont accompli des choses dans la vie ont forcément eu des très grands rêves, mais en fait, je suis tombée sur un journal intime que j'avais quand j'avais, je crois, 8 ans. Et il y avait un exercice que le prof avait posé à l'époque qui était de réfléchir où on sera dans 20 ans, quoi. Donc, dans 20 ans, apparemment, je serais en train d'aller chercher mon fils au polo. Alors, il s'appelait Lorenzo d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi. Avec ma fille Sophia qui était dans la voiture, qui était encore habillée en fait dans sa petite robe de ballerine. Et on allait en fait chercher leur père pour lui faire une surprise là où il travaillait, qui était en plus une banque. donc je ne sais pas si... J'aurais tellement voulu raconter quelque chose d'inspirante, mais en même temps, c'est assez intéressant aussi.
Enfin, oui, parce que c'est quand même très précis, à la fois pour une petite fille de 8 ans.
c'était assez précis, c'était peut-être assez proche aussi des valeurs qu'on véhiculait à l'époque.
Autour de toi, oui.
Voilà, autour de moi. J'ai grandi aux Philippines aussi, ça doit jouer un tout petit peu, mais en fait, ça me donne l'espoir presque de se dire que, tu vois, quand j'étais petite, je n'avais pas forcément d'être présidente.
Tu ne t'imaginais pas avoir cette trajectoire.
Non, mais j'étais aussi un produit de mon environnement.
Oui.
Comme beaucoup d'enfants le sont, mais qu'il est aussi tout à fait possible en fait, de tracer sa propre voie après. Même si bon, c'est très bien d'avoir un fils qui s'appelle Renzo, c'est bien d'aller le chercher pour faire une surprise à leur père. Hein, mais je pense que c'était un rêve qui n'était pas forcément le mien.
C'est celui qu'on te projetait.
Ouais.
Donc tu l'as dit, tu es née aux Philippines.
Oui.
Tu es arrivée en France bien plus tard.
Oui, à l'âge de 20 ans, qui est un peu étrange parce que c'est à la fois trop tard pour que je puisse être totalement reconnue comme française. Par exemple, j'ai forcément un accent. Il y a plein de BD ou de dessins animés que je ne connais pas. Ou quand, tu vois, il y a beaucoup de références ou de chansons que les gens chantent dans le mariage. Et puis moi, je regarde tout le monde. Je ne sais pas trop ce qui se passe. Et en même temps, c'est aussi trop tôt pour que je me sente totalement étrangère. À l'âge de 20 ans, parce que tu vois, je fais mes études en France quand même. Et voilà. Je me suis intégrée, comme on aime bien dire.
Et tu veux nous raconter les circonstances de ton arrivée en France ?
C'est assez particulier. En fait, mon père est devenu dissident politique et il était, entre autres, accusé de sabotage économique par un gouvernement qui était corrompu, qui créait beaucoup de problèmes pour la famille, comme tu peux imaginer. Et un problème particulier pour une jeune adolescente qui était que je n'avais pas le droit de sortir. Il y a eu, mon père s'était fait enlever, il y a eu des tentatives d'enlèvement de ma petite sœur aussi. Et du coup, voilà, je pouvais pas sortir. Donc, en fait, j'ai eu ce grand plan qui était de m'échapper de mon pays.
Ouais.
Tu vois, j'étais adolescente, je savais pas de quoi je parlais. J'avais même pas mis les pieds en Europe au moment où j'ai décidé de venir en France. La France, c'était à la fois parce que j'avais croisé des Français. Et aussi parce que j'ai fait un spreadsheet dans lequel, en fait, j'étais en train de choisir quel pays je pourrais y aller. Et en fait, même si les Philippines, par exemple, étaient occupées par des Américains, je suis anglophone et tout ça, s'enfuir aux États-Unis, c'est pas donné, quoi. Enfin, c'est très compliqué d'un point de vue d'immigration, c'est très compliqué d'un point de vue d'opportunité. Alors qu'en France, en arrivant, j'aurais un visa, j'aurais le droit de travail, j'aurais la sécurité sociale, toutes ces choses qui étaient vraiment comme des merveilles, en fait, pour quelqu'un comme moi. Voilà.
Et ces spreadsheets dont tu parles, tu l'as fait toute seule? T'as été aidée dans ces réflexions?
Oui. En fait, j'avais des amis qui m'ont aidée, mais vraiment tout en haut, il y avait la France et puis il y avait des pays nordiques, mais il y avait un énorme désavantage dans une colonne rouge qui était le froid.
Oui, c'est un peu plus tempéré.
Ouais, voilà, exactement. Mais la France, c'était pas. Je me souviens d'avoir dit que je voulais pas partir en France parce que je te dis, la France, c'est un peu comme les États-Unis dans le sens où il y a cette notion d'universalisme, tu vois, enfin, ces sentiments en fait que tout ce qu'on vit est une vérité absolue pour le reste du monde. Sauf qu'en plus de ça, ils parlent même pas anglais. Je sais comment je vais m'en sortir.
Justement, j'ai une question à ce sujet pour toi.
Vous avez un message.
Je voulais savoir si les Français qui parlent pas bien anglais, ne parlant pas bien anglais, une Philippine qui parle très bien anglais qui arrive en France peut se dire un jour je vais conquérir la France.
Alors cette question, elle t'est posée par Erwan,
oui.
Qui t'a choisi. C'était vraiment une transition parfaite sur l'anglais.
Mais c'est drôle qu'il dise ça. Enfin, il faut déjà dire que en France, les gens sont quand même ultra obsédés par leur accent en anglais. La quasi-totalité des temps, moi, je trouve qu'ils parlent super bien et ils sont très clairs. Et à chaque fois, je suis jamais allée à un événement de pitch ou à un événement de tech et tout ça sans qu'il y ait au moins une fois ou deux fois, cinq fois en français de « oui, I'm sorry for my accent », enfin, juste avant de parler, alors qu'en fait, c'est un non-sujet total. Et la deuxième chose que je vais adresser, c'est un mot qu'Erwan a utilisé qui est intéressant, qui est le mot « conquête ». C'est intéressant parce que c'est un mot qu'on utilise beaucoup pour décrire des entrepreneurs, mais en fait, avant d'être entrepreneur ou avant même d'être directrice à la French Tech, j'étais immigrée et j'étais plus dans une logique de survie que de conquête, quoi.
Et ce sont les études qui t'ont aidé justement à t'intégrer, comme tu disais tout à l'heure, et à t'acculturer justement cette culture française.
J'avais une histoire un peu particulière, mais je suis arrivée en 2003. En août 2003, j'avais commencé à apprendre le français à Tréguin. Je ne sais pas si tu vois où c'est vraiment un bled totalement perdu à côté de Concarneau. J'ai un petit copain à l'époque et ses parents étaient agriculteurs. Et c'est là-bas, en fait, que j'ai appris à parler français. Je passais 2 mois là-bas avant même de vivre à Paris. Donc,
l'immersion.
C'est l'immersion, la totale. Là, pour le coup, au moins, il n'y avait aucune chance que les gens autour de moi parlent anglais. Donc, en fait, je suis arrivée en août. Et c'est important de spécifier parce que, en fait, pour qu'un étranger puisse intégrer les systèmes scolaires français, il y a un examen, ou il y avait en tout cas, je ne sais pas si ça a beaucoup changé, un examen de français qu'on doit passer. Donc, je suis arrivée en août et il fallait que je passe ce test en février. Or, j'étais en train uniquement d'apprendre le participe passé.
Oui.
En arrivant. L'intégration, il n'est pas tant passé par l'école, il est vraiment passé par la bienveillance de gens exceptionnels et un tout petit peu tarés, Donc en fait, j'avais des colocs. Et il y avait une sorte de travail d'équipe qui faisait en sorte que chacun de mes colocs était responsable d'une partie de mon éducation française.
Ok.
Donc par exemple, Gurvan, lui, il s'occupait de toute mon éducation culturelle. Donc pendant un an, il a choisi tous les films que je devais regarder, qu'on a regardé ensemble, et tous les livres aussi. Martin, de mon éducation politique, le jour où je l'ai rencontré, il est arrivé dans l'appart avec des flyers de la dernière élection présidentielle. Il les a mis en demi-cercle de gauche à droite pour que je comprenne qu'est-ce que c'est la gauche, qu'est-ce que c'est la droite. Bon, aujourd'hui, c'est toujours pas très clair tout ça, mais bon, en tout cas, voilà, pour que je comprenne justement l'orientation des partis, qui était pour moi quelque chose d'assez nouveau, quoi, venant de Philippines. Nico, lui, c'était l'histoire, et on faisait des balades à Paris, et en fait, il racontait l'histoire de la France à travers des arrêts de métro.
Ok, oui.
Donc en fait, une fois par semaine, on faisait quelque chose comme ça, et puis Jean-Cyril, lui, c'était vraiment c'était la langue française, quoi. Donc à chaque fois que je l'envoyais en mail, il me répondait, mais uniquement en utilisant l'infinitif, il fallait que je conjugue à chaque fois le verbe. Et tous les dimanches, c'était une dissertation. Bref, en tout cas, c'est...
Ah, ça a été un vrai pool, une vraie team autour de toi.
C'est un vrai team autour de moi. Il y avait 10 000 post-it dans l'appart pour que je comprenne qu'est-ce que c'est une porte, qu'est-ce que c'est une fourchette, qu'est-ce que c'est une... Enfin, et oui, en fait, donc c'était jeté en quelque sorte.
Et eux se connaissaient, tes copains?
Oui, oui, en fait, eux, ils se connaissaient.
Comment tu t'es tombée avec eux?
Tombée avec eux, donc en fait, il y avait mon copain à l'époque, des fils d'agriculteurs, très à gauche d'ailleurs, et il faut le spécifier hein, parce que le règle dans l'appart, c'était chacun selon ses besoins et chacun selon ses moyens. Et vu que j'avais le moins de moyens, j'ai payé à peine, quasiment pas du tout, le loyer. Où j'ai payé même pas l'électricité, parce qu'il y avait des personnes qui étaient dans l'appart qui étaient issues de familles plutôt aisées. Et donc, en fait, tout s'équilibrait de cette façon-là et tout était partagé. On ne pouvait même pas acheter son propre beurre ou quoi. Il fallait que tout se partage. C'était des personnes qui étaient soit des amis d'enfance, des personnes avec lesquelles il était, ou des personnes avec lesquelles il allait à l'école. Donc, il y avait... trois personnes de Sciences Po Paris et une personne qui était Lumière, quoi, éphémiste. Donc, Gervain, lui, qui était plutôt, faisait plutôt des études de cinéma.
Donc, tu as eu la chance d'avoir ce petit pool autour de toi?
Ouais, je pense vraiment, c'était une chance incroyable parce qu'on ne passe pas de zéro. Je ne sais pas si, toi, de ton côté, tu as rencontré beaucoup d'Erasmus, par exemple. Tu vois, ils arrivent à leur deuxième année, ils arrivent à peine encore à gérer des dissertations. Ils commençaient vraiment à zéro. Et pour moi, c'était un apprentissage éclair. Je pense que oui, c'est toujours comme ça que j'apprends aujourd'hui, du coup, suite à
cette expérience. Et en février, t'as pu passer ton test?
J'ai eu vraiment 0,5. parce que quand même, passer de apprendre le passé composé à faire une dissertation sur est-ce que la violence est nécessaire, oui ou non, enfin...
C'était le thème de la dissertation.
Ouais, c'est toujours...
Oui, tu m'étonnes, ça marque. Bon, mais en tout cas, tu as réussi avec l'aide de cette équipe.
Ouais.
Et c'est vrai que j'imagine qu'au moment où tu apprenais avec des post-it, où tu avais ces cours particuliers des uns et des autres, tu te disais pas que tu allais conquérir la France, forcément.
Non, parce que c'était une épreuve après l'autre. Hein. Enfin, l'année d'après, j'ai pris le concours pour Sciences Po Bordeaux. J'étais la seule étrangère à l'époque à l'avoir eu.
Ouais.
Et j'étais tellement déjà préparée. Le concours était assez complexe pour quelqu'un qui n'a jamais tout à fait étudié la Première et la Deuxième Guerre mondiale, quoi.
Enfin, oui.
La même façon dont vous l'étudiez en France. Je me souviens de mon premier jour, quand j'étais allée, premier jour à Sciences Po, j'étais allée dans la toilette pour pleurer, quoi.
Ouais.
Je me suis dit, je vais jamais m'en sortir, c'est trop compliqué. Il y avait un tiers de ma promo qui sortait de Cannes, Hippocane, prépa, qui se posait déjà des questions et se demandait qu'est-ce que je faisais là, pourquoi je faisais pas partie des Erasmus, par exemple. Mm. Et tout était tout tout me semblait insurmontable à cette époque.
Et là aussi, tu as retrouvé des relais bienveillants qui t'ont...
Ouais, oui. Enfin, déjà, je pense qu'il y avait des questions de tactique et de stratégie de survie. J'avais pris anglais comme LV1, bon.
Là, tu savais que ça allait aller.
Que les gens connaissaient tellement peu de mon pays. Ouais, ça passait. J'avais pris japonais en LV2 parce que j'ai fait un bout de mon lycée au Japon où je parlais à peu près correctement japonais. Oui, il y avait beaucoup de personnes qui m'ont aidée. Des personnes qui sont venues vers moi en disant, bah, si tu veux, je te montre mes notes de prépa. J'avais des fiches qui vont peut-être t'aider à apprendre plus rapidement. Je pense que je n'ai jamais préparé des galops d'essai toute seule. Quoi. Il y avait toujours quelqu'un qui m'aidait.
Qui t'aidait autour de toi et tu avais toute une team qui... Et j'imagine que tu travaillais trois fois plus que les autres pour
Il fallait,
y arriver.
Non, il fallait... Il fallait, je pense, travailler pas deux fois plus, pas trois fois plus, mais 10 fois plus pour arriver à des résultats qui étaient OK. Enfin, je pense que par la fin, j'étais dans le top 25%, mais la première année, c'était pas du tout ça, quoi. Et c'était un type de travail qui était assez différent. Ce que je faisais en amont, c'était de pré-rédiger quasiment des bouts d'une dissertation. Et de mémoriser, en fait, mot par mot, parce que je n'avais pas confiance en mon niveau de français. Mm. Et puis, vers la fin, je faisais tout le contraire, qui était que je faisais exprès de mettre des erreurs dans ma copie. Des erreurs de grammaire ou des erreurs de syntaxe, des erreurs de... Enfin, voilà. Pour que les profs sachent que oui, c'était bien moi...
Qui avait fait
et qui tiennent compte de mes origines, quoi.
Hyper intéressant. Il y a des choses qui, tu dis, tu parlais de... En effet, tu n'avais pas vu la Première et la Seconde Guerre mondiale sous l'angle que nous, on le voit ici en Occident. Il y a d'autres choses qui t'ont marqué, frappé quand tu es arrivé en France?
Qu'est-ce qui m'avait frappé quand je... En fait, je suis arrivée en France en 2003 et c'était l'année de l'invasion d'Irak. Mm. Et quand je parle anglais, jusqu'à aujourd'hui, les gens pensent que je suis américaine. Donc c'était une des choses qui m'avait frappée, c'était vraiment une sorte de hostilité.
Oui, c'est vrai qu'en 2003, les Américains et les Français, c'était pas le grand amour.
Ouais, non. Qu'est-ce qui m'avait frappée? Non, tu sais ce qui m'a frappée le plus, mais vraiment quelque chose que ça m'a mis du temps à comprendre, la sécurité sociale. Tu parles même pas de, tu vois, la bureaucratie ou l'administration, c'est le concept même, en fait, d'une forme de solidarité... intergénérationnel qui faisait en sorte qu'il y avait personne qui était laissé dans une situation de vulnérabilité totale, quoi. Mm-hmm. Et pour moi, qui viens d'un pays qui était déjà colonisé pendant plus de 300 ans et puis dont le système ressemble plus, c'est un peu le capitalisme américain, mais dans un pays en voie de développement.
Ouais.
Ça m'a mis du temps à comprendre ce que c'était, comment ça fonctionnait. La première fois que j'étais allée à l'hôpital, je me souviens, j'étais sûre que j'allais recevoir ensuite
une facture.
Et j'avais super peur. J'ai appelé ma mère. Et tu vois, je m'en voulais, en fait, de m'avoir fait mal. Et puis voilà, tout remboursé. Incroyable.
Tu as très vite monté ta première boîte?
Ah non! Non, j'aimerais... Non, pas du tout, parce que je pense que je n'étais pas entrepreneur dans l'âme.
Intéressant.
Un acte d'entrepreneuriat, un peu un accident, en quelque sorte. En fait, l'histoire, c'était que... Donc, j'étais partie au Canada, en fait, entre parenthèses, pour devenir la plus jeune directrice de Reporters sans frontières. À l'époque, j'avais 23 ans. Et à la fin, en fait, de toute cette aventure canadienne, je me suis dit qu'il fallait que je choisisse une ville dans laquelle je pourrais commencer, en fait, à me sentir réellement chez moi. Et j'ai décidé de tenter Paris. Et donc, je suis arrivée à Paris. Donc là, on est déjà en 2011. Je suis arrivée à Paris et je me suis dit, j'ai fait Sciences Po Paris, j'ai fait McGill, j'étais quand même, j'étais un poste de dirigeante dans une ONG internationale avant. Bien sûr, j'ai aucun problème pour trouver un travail. Et j'ai postulé, mais vraiment partout. Et j'arrivais à peine, en fait, à décrocher un interview. Et je ne comprenais vraiment pas, quoi. Et entre-temps, j'étais tombée, mais follement amoureuse d'un sujet qui s'appelle l'open data.
Oui.
Parce qu'avant, un de mes grands combats était vraiment, notamment chez Apporte Cimetière, était la transparence en ligne plus spécifiquement, parce que j'avais beaucoup travaillé sur des sujets qu'on appelait les cyberdissidences à l'époque. Et voilà, il y avait ce sujet d'open data qui était un sujet émergent à l'époque. Et il y avait je ne sais pas si tu t'en souviens, mais il y avait une partie de ce qu'on appelle la French Tech aujourd'hui qui a aussi commencé avec ce mouvement-là.
Oui.
Notamment, on a toutes les personnes qui travaillent dans le data, Dataiku, Snips à l'époque. Enfin, c'était des grandes stars en 2011-2012. Et c'est comme ça que j'avais rencontré ma cofondatrice. J'ai rencontré un startup week-end. Elle travaillait pour une agence en fait, qui était en train de monter un hackathon open data pour SNCF. Et vu que je m'étais un peu spécialisée sur le sujet pendant que j'étais en France, on a décidé ensemble de se lancer ensemble. À la base, je me souviens, c'était pas on va lancer une boîte, on s'était dit qu'on allait faire du freelance ensemble pendant un an, en attendant en fait de trouver quelque chose à plein temps.
Et finalement, vous fondez une boîte qui fonctionne.
Qui fonctionne plutôt bien.
Vous recrutez des collaborateurs.
Oui.
Vous atteignez un chiffre d'affaires plus que correct.
Oui, on peut dire ça comme ça, oui.
Et vous revendez.
Oui.
Tu t'imaginais pas du tout cette première expérience comme ça.
Oui, non, mais en tout cas, au moment où on l'avait lancé, on ne se projetait pas si loin, je pense.
Ouais.
Tu m'avais dit tout à l'heure que tu as l'habitude de parler à des fondateurs du Next 40 et tout ça, comme Erwan, entre autres et tout, qui, à mon avis, quand ils ont lancé leur boîte, savaient déjà qu'ils voulaient dominer le marché, quoi. Enfin, vraiment, partir vers une conquête internationale et tout. Et moi, en tout cas, au début de ma carrière, il y avait juste beaucoup de petits choix comme ça qui, au final, s'est transformé en quelque chose de...
Une passion et une rencontre qui
voilà.
s'est transformée en une boîte.
Exactement.
Quel sentiment t'as eu quand vous avez revendu la boîte?
Moi, j'étais courant de rien parce que j'étais déjà à la French Tech.
Ah, t'étais déjà partie à ce moment-là.
J'étais déjà à la French Tech au moment où on a signé. Enfin, j'étais quand même au courant qu'il y avait des discussions dans l'amont. Mais j'étais déjà... Et du coup, il y a vraiment un mur, quoi.
Ouais. Oui,
pour le coup, il y a un mur. Et même, tu vois, j'osais même pas envoyer un SMS à ma cofondatrice. C'était vraiment...
De peur de tout faire capoter.
Non, mais on prend la haute autorité de la transparence, de la vie publique très au sérieux quand on travaille à Bercy. La plupart des détails, en fait, je les ai su après. Oui.
Donc, tu te retrouves à la tête de la French Tech en 2018, c'est ça?
Oui.
2018.
Oui.
Alors, j'ai lu quelque part qu'au départ, tu as refusé quand on t'a proposé le poste.
Ouais, mais vraiment, l'histoire, c'est que c'était Emeril Wang qui était le directeur de cabinet de Monir Majoubi qui m'avait écrit pour dire « Est-ce que tu peux passer au bureau à 11h un vendredi ?» Et moi, j'étais persuadée que c'était juste parce qu'il savait que j'avais quand même un avis sur le sujet, pour écouter la société civile, quoi. Et j'arrive à 11h et à 11h05, il me propose le poste. Il me demande si je suis intéressée pour candidater. Et mon tout premier réflexe était de dire non. Mais vraiment, c'était pas une décision que j'avais prise à la fin. C'était vraiment un moment de 5 secondes. J'ai dit non, en fait. Parce que j'étais cofondatrice d'une boîte. J'imaginais pas laisser ma cofondatrice comme ça. Mais juste aussi parce que j'avais même pas compris ces demandes. Enfin, moi, dans ma tête, le directeur de la French Tech, déjà, c'est forcément un directeur. Et quelqu'un qui est, je sais pas, énarque, polytechnicien, un costard bleu foncé, un peu de cheveux gris déjà. Enfin, et j'arrivais même pas à me projeter. Du coup, la question n'avait aucun sens pour moi, en fait. Et ensuite, ce qui s'était passé, c'est du coup, je ne sais plus, mais j'avais essayé de proposer un truc un peu improbable, comme non, mais en fait, ce que je peux faire, c'est faire du consulting pour aider le directeur une fois que vous l'aurez trouvé. Moi, de toute manière, je suis plus opérationnelle, back-office et tout ça, il n'y a aucun problème, voilà. Et ensuite, quand je suis revenue au bureau, j'ai dit, ma cofondatrice m'a demandé, mais alors, qu'est-ce qu'il voulait, Emeril, qu'est-ce qu'il voulait se demander? Et je lui ai dit, et elle m'a dit, mais il faut que tu fonces. Enfin, c'était tout de suite sa réponse. Et du coup, j'ai passé le week-end à réfléchir, mais pas seule. Mais je me suis dit, je vais parler avec 5 personnes. Et lundi, à 9h plus tard, je vais envoyer un message.
C'est indiscret de te demander qui étaient ces cinq personnes pour toi.
Bon, il y avait Roxane Barza. Ouais. Je me souviens, elle venait tout juste d'avoir son bébé, donc c'était très cool de sa part de m'accueillir. alors qu'il y avait son enfant, elle était en train de préparer l'arrivée de ses beaux-parents. Fred Mazzella, Randy Indy,
ouais.
Qui était, bon, faut dire quand même, le fondateur de Snips à l'époque. Et Adnan Trojet, à l'époque, c'était parce que c'était l'auteur du rapport de l'Open Data le plus connu.
Ouais.
C'était un énarque, mais c'était aussi un immigré de la Tunisie. Et c'était, voilà, pour avoir son avis sur le sujet. Et la toute dernière, c'était un dîner d'ailleurs, dimanche, c'était avec ma cofondatrice pour en parler vraiment sérieusement, quoi. Et après tout ça, voilà,
lundi vraiment, matin,
à 8h58.
T'avais pris ta décision.
En fait, j'avais pris une décision de candidater ensuite. Ouais. C'est pas comme si, voilà, de candidater. Et puis, il y avait plusieurs étapes après ça. Mais je pense que c'est le genre de choses où soit tu y vas à 200%, soit tu y vas pas.
Et tu as eu le job.
Ouais.
Là, tu dis que le premier article qui est publié sur toi, on parle avant tout du fait que tu es une femme.
Ouais. Et je me souviens de cet article maintenant. D'ailleurs, petite anecdote, la personne qui a écrit cet article et la personne, donc c'est tout premier article sur moi et la personne qui a écrit les derniers articles sur moi aussi. Et en fait, je me souviens, je l'avais appelé et je l'avais dit, tu sais quoi, tu avais écrit cet article sur moi et ça m'avait vraiment vexé. C'était, on dirait, un article de discrimination positive. Où, tu vois, à la limite, on s'en fichait de tout ce que j'avais accompli avant, de qui j'étais, mes compétences, et tout ce qui comptait, c'est que j'étais une femme, quoi. Je pense qu'il utilisait même le mot l'égérie de la French Tech ou quelque chose comme ça, qui m'avait vraiment blessée, quoi, à l'époque.
Et après, finalement, au fil des mois, tu es devenue quand même un peu cette égérie de la French Tech.
Pas des mois, moi j'y pense que ça a pris un an.
C'est que 12 mois, c'est quelques mois.
Ouais, c'est quelques mois. Mais en même temps, c'est pour une raison assez précise. Donc il y avait ça, mais il y avait aussi. Tu vois, quand Mounir Majoubi a annoncé à Vivatech que j'allais être la nouvelle directrice de la French Tech, je suis montée sur scène et tout, il y a eu. Un déferlement de félicitations sur les réseaux sociaux, bon, Twitter, X, bref. et le hashtag le plus utilisé était hashtag diversité. Mm. Et donc, entre ça et l'article, suite à ça, j'avais pris une décision que j'ai regrettée ensuite, mais en tout cas, à ce moment-là, ça me semblait plutôt comme une décision intelligente. Anyway, la décision était d'éviter de faire la télé et de la radio avant de pouvoir prouver en fait que je méritais vraiment le poste, avant de faire quelque chose de remarquable. Donc, c'était un an, c'est peut-être un peu moins d'un an, mais j'ai accepté uniquement de faire la télé après qu'on ait sorti le visa French Tech, qui était mon premier très grand défi, grand challenge, grande réussite aussi de voilà, toute l'équipe et toutes les personnes qui ont travaillé là-dessus. Et je me souviens parce que c'était avec sur BFM avec Sébastien Cohen. Et en fait, il voulait me parler avant au téléphone, donc on avait un call qui était calé. Et en fait, il m'a dit qu'il voulait juste vérifier que je parlais français aussi parce qu'il avait des doutes vu que tout le monde s'était dit bah, forcément, peut-être que c'est parce qu'elle ne parle pas couramment français parce que ça fait.
Un an, parler d'elle, ouais.
Exactement, mais c'est juste que je voulais pas faire quelque chose où on voyait ma tête, où on entendait mon accent, et que comme ça, quand on parle de moi, on parle pas de mon profil, ou de ce que je représente, on parle de ce que j'aurais accompli. Voilà. Ouais.
Et pourquoi tu dis que tu regrettes aujourd'hui? Tu ferais différemment aujourd'hui, si c'était à nouveau? Bon, après, t'as l'expérience aussi, donc c'est facile de...
Je pense que c'était bien de l'avoir appris de cette façon-là, mais en fait, quelque chose que j'ai remarqué aujourd'hui, et... Enfin, moi en premier, beaucoup de femmes sont tellement perfectionnistes qu'on n'accepte pas d'être rôle modèle. Je me dis, on sera rôle modèle quand tu vois, on aurait fait ABC, mais qui sont vraiment des milestones extraordinaires. Et avant ça, en fait, on hésite à se mettre en avant, on a honte presque. Et en fait, en faisant ça, je m'étais rendu compte à travers des mails et des lettres quoi, que j'ai reçues de beaucoup de femmes dans l'écosystème, que j'avais privé d'autres femmes, d'autres immigrés peut-être, d'autres personnes, des minorités visibles, à un rôle modèle. Et je pense que, et c'est ma tu vois, enfin, vu qu'avant j'étais voilà, immigrée en mode un peu survie, et forcément, en fait, le truc qui est vraiment triste, c'est quand t'es comme ça, tu penses qu'à toi. Tu vois, tu penses à comment toi tu vas t'en sortir, comment ça va, tu vois, à quoi va ressembler la fin de l'année, tout ça. Et là, en fait, je me dis, mince, en fait, là, j'ai une grosse poste de responsabilité et j'incarne quelque chose qui dépasse qui je suis, qui j'ai envie d'être, l'histoire que j'ai envie de raconter sur moi-même. Une partie de cette responsabilité, en fait, est de vraiment soutenir les autres, quoi. Et du coup, voilà, enfin, j'ai dit, en fait, c'était quasiment une forme de vanité, au final, de ne pas vouloir être un rôle modèle, sauf si j'ai coché ces 10 cases-là, et c'était exactement, en fait, la manière dont j'aurais voulu être vue.
Et après, ça peut aussi être compliqué à l'instant T de se rendre compte qu'on est en train de devenir un rôle modèle.
Oui, je pense qu'on met le bar très, très haut, en général. Donc,
et toi, tu avais aussi envie de prouver que tu étais capable de faire à ce moment-là. Donc,
Oui, mais je pense qu'on pourrait peut-être dire que j'espère en étant un rôle modèle repenti, en quelque sorte. ça a eu un meilleur impact.
En tout cas, je pense que tu constitues un rôle modèle aujourd'hui pour beaucoup de femmes dans la tech et pas que dans la tech. Parce que quand on dit ton nom, tout le monde te connaît, tout le monde t'associe à beaucoup de réussites de la French Tech. D'ailleurs, toi, tu retiens quoi de ces années French Tech? De quoi t'es la plus fière?
De quoi je suis la plus fière? Enfin, j'ai envie de parler de mesures.
Ouais.
Par exemple, il y en a deux dont je suis le plus fière. Le visa, en tant qu'immigrée, qui a subi le renouvellement des cartes de séjour tous les ans dans la préfecture et pas toujours dans des circonstances les plus agréables. Le visa, pour moi, était important parce que c'était une sorte de lettre d'amour que la France écrivait à l'écosystème tech international en disant « Venez, vous êtes le bienvenu ». On a envie de construire cette French Tech avec vous. Et c'est vraiment comme ça que ça a été vécu. Moi, je me souviens de... c'était un sujet qui a l'air très administratif, mais très humain aussi. Je me baladais parfois à Station F et il y avait des personnes qui venaient vers moi pour dire « Mais c'était Kat pour Longueuil, ouais, c'est toi qui as fait le French Tech Visa. Ouais, je vais te montrer une photo de ma famille. » Montrer des photos de leurs enfants et juste dire que voilà, grâce à cette visa, on a tous pu venir en France et on est très heureux et tout. Donc, j'aimais parce que c'était un sujet très humain. J'ai beaucoup aimé aussi parce que c'était un des projets assez transverses. Ça m'a fait découvrir le fonctionnement du ministère de l'Intérieur, le fonctionnement des consulats, les quais d'Orsay, Bercy, parce que c'était vraiment un sujet administratif. On rentre, comme pour créer des visas, tu rentres dans des détails de quoi va ressembler le formulaire SERPA. Quoi.
Oui.
Donc en fait, j'ai envie de dire que c'est ça. J'ai envie de dire que c'est peut-être des choses, quand des gens disent oui, on a réussi, ils parlent de licorne, ils parlent du Next 40. Mais au final, je pense le truc et je remercie du coup à ces journalistes d'avoir l'écrit de cette façon-là. Au final, je pense que mon legacy était le legacy d'une French Tech qui n'appartient qu'à peu de personnes. C'était un French Tech qui appartient à la France et qui appartient à tous ceux qui ont envie de le rejoindre. Même si la porte n'est pas grande ouverte, parce qu'il y a quand même 10 000 obstacles pour pouvoir se lancer, on a quand même ouvert un tout petit peu plus.
Et ça, t'en es fière?
Ouais, ça, j'en suis assez fière, ouais. Même si, bon, il y a encore pas mal de pain sur la planche sur ce sujet-là.
Le fameux classement du Next 40 a aussi été lancé quand tu étais à la tête de la French Tech.
Ouais.
Est-ce que pour ce podcast, tu nous raconterais le dessous des cartes de ce lancement?
Ouais, bien sûr.
La première édition.
La première édition, c'est drôle que tu appelles ça un classement. Tout le monde appelle ça un classement, d'ailleurs. Et pour beaucoup de gens, c'est ce qui compte. Monter un classement, ça ne prend pas beaucoup de temps. Par contre, monter un programme, c'est ce que c'est, et beaucoup plus difficile. Donc, en fait, le rêve derrière le Next 40 et le French Tech 120, en fait, il était très spécifique au monde de 2019, en fait, 2018-2019. Et aujourd'hui, c'est peut-être des choses qui peuvent... on pourrait avoir l'impression que c'est un contexte un peu périmé, mais un à l'époque.
Non, mais il faut se remettre dans l'époque d'ailleurs.
Il faut se remettre de l'époque.
On va parler après des évolutions, mais on va se remettre à l'époque.
Ouais, donc à l'époque, personne ne voulait bosser pour une start-up.
Ouais.
Tu vois, les gens ne voulaient soit aller dans la banque, Société Générale, BNP et tout ça, soit s'ils voulaient bosser dans la tech, c'était pour bosser chez Google. Et pour eux, les startups, c'était des petites boîtes fin fond de station F qui jouaient au baby-foot. Donc, en fait, voilà, il y avait pas ce truc d'entre-deux, quoi. Donc, on a dit, on aimerait bien pouvoir montrer aux gens que l'écosystème a déjà bougé et qu'ils voient ces boîtes-là et que ces boîtes-là incarnent ce que la French Tech est devenue entre-temps. Parce qu'entre le lancement de la French Tech en 2013 et en 2018, il y a quand même eu quelques évolutions. Donc, il y avait vraiment le marque employeur de la French Tech et de ces boîtes-là était quand même un grand déclencheur au début. Et le deuxième, en fait, était lié à la stratégie de la French Tech. Mais en fait, la French Tech, il est difficile à lire de l'extérieur parce qu'on voit juste le lancement des programmes par-ci, par-là, des initiatives, des annonces, des séquences avec le président, avec les ministres et tout. Mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est que l'objectif tel qu'il a été posé par le président de la République en 2018 était les fameux 25 licornes d'ici 2025. Mm-hmm. Pas au prix de la diversité, l'écologie et la cohésion territoriale. Et du coup, c'est un pipeline. C'est un pipeline. Donc, en fait, c'est exactement le même enjeu. Tu essaies de massifier les talents. Donc, le premier enjeu, premier niveau, c'est de s'assurer que le maximum de talents se dirigent vers la French Tech pour lancer une boîte ou pour le rejoindre en tant qu'opérateur. Le deuxième, ensuite, c'est un enjeu de vitesse. Pour s'assurer qu'on passe de seed A, B, C, D le plus rapidement possible, dans les meilleures conditions possibles. Et ça, en fait, donc la première partie, c'était beaucoup de politique publique, French Tech Tremplin, le visa, le ministère de l'Éducation et tout ça. Au milieu, on voit beaucoup le financement territorial et également le BPI. Et ensuite, quand on arrive tout en haut, mais en fait, on ne sait rien. On sait rien. Donc, en fait, pour produire ces fameux champions de la French Tech, en fait, il faut savoir plus de choses sur eux. Donc, en fait, on s'est dit que si on arrive à déterminer qui sont ces 120 boîtes, on apprendra plus sur le besoin de l'écosystème et on saura mieux de les traiter. Donc, la vraie fierté derrière la Next 40, c'est ce qui est caché derrière, c'est-à-dire des account managers qui sont à l'écoute de leurs besoins, qui tiennent en fait des data très macro aussi pour comprendre tous les services d'État les plus utilisés, le service d'État qui fonctionne le moins bien, des besoins de biz dev, des pays dans lesquels ils ont envie de s'éteindre, tout ça, réglementations qui sont le plus casse-gueule, des besoins, enfin bref, et tout ça qui fait qu'il y a un dialogue permanent entre l'État et les startups. Donc, c'était un peu les visions. Et puis, la décision de faire en sorte qu'il n'y ait pas de jury.
Ouais.
Non, mais c'est juste, c'était pas possible. Je pense qu'on avait une tentative de jury au début. Je me souviens que Mounir avait mis en place un jury. Et je crois qu'Olivier en faisait partie.
Je crois, oui.
Mathieu en faisait partie. Et au final, c'était trop compliqué parce qu'il n'y avait aucun moyen de protéger le classement. Mm. Tu vois, il y avait plein de gens qui diraient que voilà, c'est du lobbying, c'est du copinage et tout ça. Donc au final,
un tel et un best dans tel truc.
Exactement, un conflit d'intérêts, nana. Mm-hmm. Et du coup, au final, on s'est dit, on va mettre quelque chose qui est perfectible, certes, mais objectif.
Qui était au départ sur des levées, je crois, des montants de levées.
Oh non, plus compliqué que ça. Il y avait une levée dans le sens où les licornes rentraient directement. À l'époque, il n'y en avait pas beaucoup, donc ça ne posait pas trop de problème.
Ce qui est un problème aujourd'hui.
Bon, aujourd'hui, je crois que Clara est sur le coup, mais levée, croissance et chiffre d'affaires.
Alors justement, sur ces critères, Jean-Noël Barrot a annoncé il y a quelques semaines que les licornes ne seront plus automatiquement dans le classement. Je crois que dans les critères rentre l'index d'égalité professionnelle, qui doit être publié, et les boîtes devront publier un bilan carbone. Pour toi, c'est des premières avancées, c'est révolutionnaire?
Ça me semble tout à fait normal pour 2023. par 2022 à 2021. C'est plus des conditions, je crois, du coup, parce que publié à l'index auquel, de toute manière, les gens sont déjà assujettis par la loi. Et, non, en fait, c'est un premier pas. C'est un pas vers la transparence, parce qu'il n'y avait pas un score minimum. Il fallait juste le publier.
Oui.
C'est pas comme si on a dit il faut mettre en place en fait un roadmap à net zéro à 2030 et aller investir dans la décarbonisation. Donc non, mais ça me semble sain, pas révolutionnaire, mais très sain, et vraiment s'adresse de manière, je dirais, assez incrémentale mais nécessaire à certaines critiques. Mais enfin, en fait, je sais pas, je trouve que le Next 40, French Tech 120, comme je t'avais dit, c'était le produit de l'époque, de 2019. C'était, et juste pour continuer à décrire cette époque, c'était une époque où on rêvait des licornes, on rêvait des décacornes. Et tu vois, enfin, à la limite, c'était le KPI le plus utilisé pour comparer la santé de tel écosystème à tel ou tel écosystème. Et du coup, la French Tech était très orientée à hypercroissance. Parce que pour nous, championne, quand on, tu vois, avec la stratégie de championne d'Emmanuel Macron, en fait, on était très. Voilà, on pensait qu'à ça. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé entre temps. Une chose qui a changé, c'était Covid, déjà. Et je t'expliquais pourquoi ensuite, mais il y avait Covid et il y a eu l'invasion d'Ukraine. Qu'est-ce que ça fait? Ça veut dire que la notion de la valeur de telle ou telle start-up dépasse très loin sa performance économique. Mm. Pendant Covid, d'un seul coup, on s'était rendu compte de la valeur des boîtes dans le cyber, les souverainetés par rapport au cloud, toutes les questions d'infrastructure, de santé. Avec l'invasion d'Ukraine, en fait, on commençait à se dire qu'il y a des sujets de défense aussi et des sécurités économiques qui allait devenir nécessaire. Et en fait, du coup, on commence à voir des sujets deep tech émerger, que ce soit le quantum, les semi-conducteurs, l'IA, et qui aujourd'hui, en fait, on traite de manière quasiment séparée du Next 40.
À ce sujet, j'ai une question.
Ouais, vas-y.
Vous avez un message.
Bonjour Kat, j'ai une question de mon côté sur ta vision de l'écosystème français alors que la French Tech vient de fêter ses 10 ans. Et aussi sur l'émergence et la capacité à émerger de l'Union européenne sur la partie deep tech alors que la compétition mondiale devient de plus en plus féroce. Comment est-ce que tu vois le futur et comment est-ce que tu penses qu'on va pouvoir émerger sur ces sujets si stratégiques pour nous tous? Merci.
Alors c'est une question de Louis Carl, le fondateur de
Badinet. Ok, bien sûr. Non mais c'est une super question parce que c'est des choses auxquelles j'ai commencé déjà à y penser en 2021. Tu vois, donc en 2021, la France a eu la présidence de l'Union européenne, le Conseil de l'Europe. Et du coup, on a tous travaillé sur quelque chose qui s'appelle Scale Up Europe, qui était censé être une sorte de think tank en mode pop-up pour réfléchir justement sur de quoi on allait avoir besoin pour pouvoir avoir une plus grande force de frappe au niveau européen. Mais c'était aussi une année qui était assez étrange pour moi parce que, vraiment quand t'es dedans, ça va tellement vite, il y a tellement d'urgence, c'est très difficile de prendre recul. Et le moment que tu prends vraiment du recul, c'est naturellement au moment où tout le monde est en train de faire ton bilan et d'en parler. Et en fait, tu vois, j'étais en train de rédiger mon discours de départ. Et tu vois, j'allais encore dire, tu vois, les 17 licornes, enfin, le même chiffre et tout. Et en fait, en prenant plus de recul, je dis, mais en fait, est-ce que ça compte vraiment? Enfin, c'est dans le sens où, pas pour dire que le mouvement French Tech, il n'est pas important, mais en fait, on arrive à un moment assez particulier où, si on continue comme ça, en s'auto-félicitant parce qu'on a dépassé les Allemands, où on a 10 licornes de plus, est-ce que ça fait en sorte qu'on ne verra pas le tableau d'ensemble? Et le tableau d'ensemble, c'est la French Tech avant tout, la raison pour laquelle l'État a tant investi, et des gens comme moi, comme Cédric mots comme Fleur Pellerin, comme Nuria Madjoué, enfin, tous les gens en ont donné tant d'eux-mêmes. Ce n'était pas pour une bulle des personnes qui peuvent organiser des soirées une fois par an pour se féliciter de nombre de licornes qu'ils ont. La French Tech, c'est avant tout un projet pour la France. Mm. Et pour des mots qui peuvent sembler assez galvaudés aujourd'hui, comme la souveraineté ou les sécurités, mais en fait, c'est vrai, quoi. Enfin, aujourd'hui, si on y va toujours avec une notion de French Tech et pas une notion d'Europe Tech, ça va pas vraiment bouger des lignes, quoi, dans l'absolu. Si l'objectif, c'est vraiment de sécuriser les valeurs et la sécurité européenne face aux Américains ou face aux Chinois, toute seule, on a à peine la taille des Californies. Tu réunis toutes les startups du Next 40 et tu vois, du point de vue de valorisation, je parle même pas de revenus, ça reste inférieur à celle de Stripe, par exemple. Donc en fait, il y avait cette première réflexion sur ça. Et puis le deuxième encore, c'était voilà, on commençait à avoir ce début de réflexion sur mais en fait, pourquoi le Next 40? Pourquoi est-ce qu'on a décidé que la boîte qui grandissait le plus ou qui avait une puissance économique potentiellement plus élevée serait les boîtes les plus importantes de la French Tech, à tel point où, en fait, ils ont une équipe, enfin, il y a une grosse équipe derrière maintenant, enfin, des personnes qui les aident. Et en fait, c'était encore pour la France, c'était encore parce qu'il y avait cette idée qu'il y a un tel écart entre l'Europe, la France et les États-Unis par rapport au PIB, par rapport à la croissance PIB. Et les États-Unis, c'est tiré par les boîtes de la tech. Mm. Donc, en fait, on a déjà raté une révolution économique, tu vois, l'arrivée des clouds, d'infrastructures et des réseaux sociaux. On se dit, on ne peut pas se permettre de faire la même chose. Et du coup, c'était ça la vision et c'est ça la stratégie. Et aujourd'hui, je suis pas sûre que ça tienne encore de la même façon. Je pense vraiment, et on voit Clara et les ministres aller dans ce sens-là, notamment avec l'arrivée de France 2030. Mais aujourd'hui, c'est encore un peu encore le cul entre deux chaises, comme on dit. Donc, je pense là, une question qu'on va devoir se poser, peut-être pas là, peut-être au prochain quinquennat, c'est pas comment on soutient la French Tech. La question, c'est quel est l'objectif pour la France et comment, enfin, qu'est-ce que la French Tech peut faire pour la France, tu vois, versus. Moi, j'ai passé les 4 années à la French Tech. Les questions les plus posées quand j'étais à la French Tech, vraiment, via les sites web ou les réseaux sociaux et tout ça, était qu'est-ce que la French Tech peut faire pour moi. Et là, je pense qu'il faut qu'on change un tout petit peu et on commence à dire qu'est-ce que la French Tech peut faire pour la France. Et du coup, je pense qu'il y aurait une tendance à se dire plutôt on a un objectif et pour y arriver, on a besoin de certains types de boîtes et que certains types de boîtes qui vont arriver à un certain type de stade de développement, à un certain stade de déploiement, d'arriver à certains niveaux d'innovation et de voilà. Et que ce sera ça éventuellement qui va driver peut-être qu'on appellera la Next 40 dans l'avenir.
J'ai une autre question pour toi.
Vous avez un message.
Comment vois-tu évoluer le mandat de la French Tech si jamais nous n'avons plus Emmanuel Macron en tant que président et que nous changeons de gouvernement?
Donc c'est une question de Maya Noël de France Digital. Sachant qu'a priori, on n'aura pas à nouveau Emmanuel Macron au prochain quinquennat.
Honnêtement, c'était un vrai plaisir de travailler dans l'administration d'Emmanuel Macron. Si je ne l'ai pas tant connu en tant que président, parce que je n'étais pas encore de nationalité française à l'époque, je l'ai connu un peu comme CEO. et aujourd'hui, tu vois, quand tu parles avec d'autres pays, notamment en Europe, ils se demandent tous comment on a pu mettre en place une machine si bien huilée en si peu de temps, mmh, avec tant de résultats et tant de convictions. Et je pense que ça, c'était vraiment le résultat d'un leadership qui est très fort, avec ensuite une profondeur technique qu'on voyait à tous les niveaux. Après, il faut quand même dire que la French Tech, c'est pas l'État. Ça n'a jamais été l'État. Ça a toujours été soutenu par l'État, backé par l'État. Certes, il y a le petit coq rouge qui aujourd'hui est une marque de l'État, mais...
Qui est une marque forte. Qui est une marque de fierté aussi.
Qui est une marque forte, qui est une marque de fierté, mais qui n'a jamais été la vraie condition de réussite. Je pense que je serais triste aujourd'hui de dire que l'écosystème tech français...
Se résume à un coq.
Ouais. Oui, ça résume un coq qui, en plus, je raconte même pas toutes les batailles qu'on avait sur le fait que le coq est forcément masculin, mais bref. Beaucoup de questions sur comment faire en sorte que le coq soit moins genré, mais anyway, pardon. C'est pas ça le sujet. Qu'on imagine que la French Tech, c'est l'État. Enfin, c'est un non-sens total. C'est vrai que naturellement, l'État met en avant ses politiques en faveur de l'écosystème French Tech, mais l'écosystème, c'est avant tout les fondateurs, tu vois, le membre de leurs équipes, les incubateurs, les accélérateurs, les VC, toutes les personnes, en fait, qui essaient de faire avancer l'écosystème.
Et ce que tu disais tout à l'heure off micro, tu disais, toi, t'es partie au moment de la dernière campagne présidentielle.
Ouais.
Vous aviez quand même backé un certain nombre de choses pour que des choses soient immuables.
Il y a certaines choses qui sont naturellement beaucoup plus difficiles à démanteler, quoi. Enfin, c'est des choses qui sont inscrites directement dans la loi, comme, je sais pas, la réforme de BSPCE ou les visas French Tech aujourd'hui. Après, qu'est-ce qu'on peut, s'attaquer, quoi? Ouais, on peut décider de faire en sorte qu'il y ait un peu moins de financement public. On peut essayer de faire en sorte que des programmes de soutien des capitales et des communautés soient moins une priorité. D'ailleurs, on l'avait déjà vu. Enfin, dans certains territoires, je me souviens que pendant suite aux élections même municipales, il y avait beaucoup de... des capitales ou des communautés French Tech qui ont perdu une partie de leur financement. Mais encore, je dirais, c'est pas ça la French Tech.
Non.
C'est un aspect de l'environnement de l'écosystème tech français qui est un aspect important, mais c'est très, très, très loin d'être le cœur, d'être le moteur.
Mais après, c'est vrai que l'aspect French Tech est très associé à l'image de notre président actuel, Emmanuel Macron, parce qu'il s'est engagé fortement. Vivatech, on dit, c'est un peu son salon. Il aime bien y aller, comme d'autres avaient d'autres dadas, d'autres présidents avaient d'autres dadas. Et derrière, en fait, c'est vrai qu'il y a toujours cette question qui se pose de se dire... le prochain président, s'il est pas, ou présidente d'ailleurs, s'il n'est pas du même bord que notre président, qu'est-ce qui va devenir de la French Tech?
Selon moi, la mission French Tech, j'ai toujours rêvé de la disparition de la mission French Tech, ouais. En vrai. C'est un peu comme le Chief Digital Officer parfois dans certains métiers, ou Chief Impact Officer, qui est un métier que j'ai pratiqué. Où on s'est dit que si on a vraiment réussi cette transition, cette transformation, on aura moins besoin de nous. On aura moins besoin de l'argent de l'État pour, en tant que LP ou en tant que VC, au moment où le marché privé s'équilibre en faveur de nos pépites, versus une dépendance trop forte aux États-Unis. On aurait moins besoin des account managers de Next 40 ou Green 20 ou French Tech 120 pour faire le relais entre eux et les administrations au moment où les administrations, en fait, auraient bien compris les enjeux de ces startups. On aurait moins besoin des programmes comme French Tech Tremplin pour soutenir les diversités au sein de l'écosystème tech français au moment où l'écosystème, en fait, deviendrait un peu plus juste. Et du coup, c'est un peu difficile comme question parce que je rêve pas non plus d'une administration ultra puissante qui continue à monter en puissance d'un quinquennat à l'autre, parce que la montée en puissance de ces administrations signifie que ça fonctionne pas.
Je comprends. Merci pour ce point. Récemment, on a soufflé les 10 bougies de la French Tech. Qu'est-ce que tu lui souhaites, toi, à la French Tech pour les 10 prochaines années, à cette mission French Tech? Pas de disparaître complètement.
Non, mais je dirais Oui, il y a tellement de choses que je veux pour la French Tech. Bon, déjà, plus d'exit, ce serait pas mal.
Super, ça nourrirait notre podcast Cash Out.
Ce serait déjà pas mal parce que ça reste un écosystème avec ses cycles et il faut que ces cycles atteignent un certain stade pour que le roue continue à tourner. En fait, c'est bizarre de dire ça, mais j'aimerais que quand on fête l'anniversaire de l'écosystème tech français, peut-être dans 20 ans, tu vois, 30 ans, qu'elle soit moins French, dans le sens où on rêve de devenir une des capitales de la tech mondiale. Et une capitale attire des personnes de partout. Et aujourd'hui, si on voit les puissances des autres écosystèmes comme Londres, le Silicon Valley, New York, enfin voilà, c'est surtout sa capacité à attirer des talents, à fédérer, à retenir, à faire grandir des talents de partout dans le monde, qui explique une grande partie de la réussite. Et on voit que c'est déjà le début, en fait. Enfin, aujourd'hui, quand j'étais chez Content Square, on entendait surtout français dans les locaux parisiens. Mais aujourd'hui, je trouve que la French Tech, telle qu'elle est structurée, n'a pas encore créé beaucoup de place pour ces immigrés-là. Tu vois, comme moi, j'étais un immigré aussi. Et ils sont encore parfois dans cette situation d'outsider. Mais un jour, j'espère qu'ils vont pouvoir faire partie de la construction de ce beau projet qui est la French Tech. Voilà, sans forcément... tu vas sans forcément devoir pouvoir chanter la Marseillaise, quoi, avec un accent parfait.
Je te demanderai pas de la chanter.
Merci.
Tu en as parlé rapidement, enfin, tu viens de le citer, à la fin de ta mission French Tech, tu as décidé de rejoindre une scale-up, qui est Content Square, en tant que Chief Impact Officer, fonction que tu as quittée récemment, il n'y a pas très quelques mois. Qu'est-ce qui t'a animée dans cette dernière expérience?
Donc, ce n'était pas spécifiquement pour rejoindre Content Square. Donc, la manière dont ça s'était passé, c'est vers la fin de mon mandat, je travaillais beaucoup sur le sujet d'impact. On avait un comité impact, en fait, qui réfléchissait aux critères, conditions, manière de soutenir surtout la French Tech 120 dans une démarche plus RSE peut-être qu'impact. Et je m'étais posé une question qui était comment ça se fait que les boîtes late stage de la French Tech, d'un écosystème qui n'arrête pas de dire qu'ils sont là pour changer le monde, investissent si peu dans l'impact et dans la RSE. Et du coup, je suis allée vraiment poser des questions à des fondateurs et à des VC. Et à chaque fois, en fait, on me donnait la même réponse. La réponse la plus répandue, c'est que hop là, tu vois, enfin, ça, c'est un sujet qu'on verra une fois qu'on aurait fait, notre IPO. Tu vois, c'est un sujet pour une boîte publique, c'est pas pour nous. Il y avait aussi cette idée que de toute manière, les investisseurs ne seront jamais d'accord, donc ce n'est même pas la peine d'y penser. On doit déjà se focaliser sur tellement de choses. Il y avait la réponse que jamais encore, le moindre qui était oui, bien sûr, tout va bien et tout. On a un stagiaire qui organise, je ne sais pas, des moments où on va nettoyer les plages en team building. Et grosso modo, il y avait quand même ce sentiment de la part de toutes les personnes à qui j'avais parlé que si on n'est pas une entreprise à mission, genre née une entreprise à mission, vraiment une boîte à impact, ce serait impossible. Donc en fait, ce que j'ai dit, c'est je ne pense pas que ce soit impossible. Je pense que c'est très, très difficile et je pense que c'est beaucoup plus difficile que les gens imaginent, une transformation de ce niveau-là. Et du coup, je suis allée chercher, avec l'aide de journalistes, de VC surtout, quelques personnes de private equity qui m'ont filé un coup de main. J'essaie de chercher une boîte niveau licorne dans un vertical pas traditionnellement associé à l'impact, donc pas dans le climat, pas dans l'éducation, pas dans la santé, et dont le COMEX et surtout le fondateur serais prêt à se convertir en entreprise à mission, mais pour de vrai, tu vois, enfin, pas juste sur papier.
Pour faire beau sur le papier, oui.
Et du coup, j'avais un petit shortlist. Et à ce moment-là, j'avais aussi rencontré Jonathan Cherki, que je connaissais à peine avant. Et en fait, c'était lui qui m'avait écrit quand il a vu que j'avais quitté la French Tech. Et je me souviens, quand j'aurais reçu son message, j'étais en mode, ouais, OK, no way, quoi. Enfin, OK, genre, Content Square, c'est pas une boîte qui essaie de maximiser la conversion sur l'e-commerce pour que les gens achètent des choses dont ils n'en ont pas besoin. Tu vois, dans ma tête, c'était, ça rentrait mais vraiment pas du tout dans ce que j'ai cherché. Et ensuite, j'ai rencontré John et j'étais bluffée, quoi. Hein, j'avais pris plusieurs choses sur lui. Déjà qu'il avait 36 ans à l'époque. Mm-hmm. C'était déjà une série E, quoi, enfin, oui. Au moment où je l'avais rencontré. Solo founder.
Oui.
Avait jamais bossé pour une autre boîte
non.
que celle-là, tu vois. Enfin,
il y a un super épisode 40 nuances de Next Tech, Jonathan.
Ouais, avec Jonathan, mais du coup, et en plus de ça, ça faisait peut-être 2-3 ans qu'il commençait à lancer plusieurs side projects lui-même pour améliorer l'impact de la boîte. Que ce soit l'acquisition d'une boîte spécialisée dans la technologie assistive pour l'accessibilité numérique, l'investissement...
Avec Marion Ranvier.
Avec Marion,
qui est aussi, passée dans 40 nuances de Sister.
Ah, super. Oui, elle était dans mon équipe, Marion. La création de fondation ou l'investissement en R&D pour la création d'une version de Content Square qui utilisait zéro cookies. Enfin bref, il avait lancé tout un tas de choses. Et donc, en fait, je voyais déjà que c'était important. Donc, en fait, on en a parlé avec Jonathan. Il essayait de me proposer plusieurs choses pour voir un peu où il pourrait me caser. Tu vois, est-ce que tu es intéressé par le DEI, donc Diversity, Equity and Inclusion? Et, tu vois, je vois dans ton parcours que c'est important pour toi. Est-ce que privacy, vu que voilà, tu t'es engagé pour le sujet, quand tu travailles sur le sujet data, le sustainability, il dit qu'il y a peut-être un truc à craquer autour de l'éco-conception. Est-ce que Content Square pourrait faire? L'accessibilité numérique, il m'a raconté du coup l'acquisition de la boîte de Marion. Bref, il y avait toutes ces choses-là. Et ce qui s'était passé, c'est... 48 heures après, 3 jours après, on s'est reparlé et j'ai dit, écoute, j'avais pas vu votre mission. Et en fait, la mission de Content Square est tellement belle, c'est faire en sorte que les expériences digitales soient plus humaines. On passe notre life sur Internet et tout, et en fait, je l'avais pas vu ça. J'avais pas vu votre mission, je t'avais pas vu toi. Et aujourd'hui, en fait, je suis persuadée que le parcours de Content Square jusque-là reflète, tu vois, d'hypercroissance, reflète tout ce qu'on a dit une boîte devrait faire. Tu vois, vraiment, ils ont vraiment un textbook de à quoi ressemble la réussite telle qu'on avait dit était la réussite. Et John, il avait suivi ce playbook-là, quoi. C'était vraiment un move fast and break things. Enfin, bref, un peu ce mindset-là. Mais que j'avais vu que lui, en fait, en tant qu'entrepreneur, c'était quelque chose qui était, c'était important pour lui.
Un moteur pour lui.
Un moteur. Et plus que ça, en fait, John, il se projetait à une boîte dont il sera encore le CEO dans 30 ans. Mmh. Qui allait continuer, en fait, au-delà de lui. C'était genre, le travail de sa vie, quoi. Et que j'ai commencé à voir déjà que ces choses-là devenaient importantes. Donc, en fait, je lui ai dit, écoute, John... si tu veux, il n'y a aucun de ces sujets-là qui m'intéresse individuellement. Par contre, si vraiment tu es sérieux, c'est quelque chose qui compte pour toi, je pense que c'est le cas, c'est quelque chose qui compte pour l'avenir de la boîte, ce que je propose, c'est que tu me donnes la totalité de ces sujets-là. On les met sur un poste de C-level assez cross-functional, qu'on peut appeler Chief Impact, whatever, au COMEX, avec un pourcentage de revenus de Content Square fixé comme le budget. Pour qu'on ait quand même
les possibilités de faire des choses.
Exactement, en fait. Les possibilités de faire des choses. Et ensemble, en fait, on va réécrire l'histoire de Content Square. Donc, c'était un peu c'est un peu comme ça que la discussion avait commencé. C'était le mindset aussi avec lequel on s'était attelé pour construire ce rôle, cette équipe.
Et au-delà de la personnalité de Jonathan, est-ce que tu penses que le fait qu'il soit basé de l'autre côté de l'Atlantique avec une culture qui n'est pas du coup que centrée française.
Mais... Il est très français.
Même s'il est très français.
Je veux voir marseillais.
Non, oui, c'est vrai, il est plutôt marseillais que français. Je crois que son rêve, c'est de racheter OM. Je crois que c'était sa carte blanche. Je ne veux pas dire de bêtises.
C'est une North Star. KPI's North Star. On est à combien de pouvoir acheter l'OM?
Mais est-ce que son aventure américaine lui a encore plus ouvert les chakras, si je puis dire, sur cette notion d'impact?
Je ne pense pas. Parce que je pense que les Américains n'ont rien à nous apprendre en fait, par rapport au sujet d'impact. Non, je pense que s'il y a eu un déclencheur, et si j'ose le dire comme ça, en devinant, il y a plus de chances que ses enfants. Mm. Il a eu son troisième enfant cette année-là. Le fait de devenir papa, de se projeter à l'avenir, d'avoir une boîte à plus de 1500 personnes à l'époque, là ils sont plus de 2000. Et d'avoir cette responsabilité aussi parce qu'ils s'étaient rendus compte qu'ils avaient accumulé tellement de pouvoir dans le produit, dans le partenaire, financièrement, qu'ils étaient déjà dans une situation où ils n'avaient plus aucune excuse en fait, pour ne rien faire. Mm. Ne pas être une... Donc je pense que c'est plus ça. Je pense que l'impact en général, tu vois, pour avoir parlé à d'autres fondateurs, c'est un sujet qui est forcément très founder-led et qui, enfin, souvent, a du coup des déclencheurs qui sont très personnels. Mm-hmm. Pour avoir ce niveau de conviction et ce niveau d'investissement, il le faut. Sinon, les gens sont plutôt en mode cocher des cases pour la compliance.
Et publier son petit rapport qui va bien.
Le petit rapport qui va bien avec tu vois, des têtes multiculturelles où tout le monde a l'air heureux pour une marque employeur. Enfin, et je pense qu'il avait... c'était une motivation qui allait bien au-delà.
Et l'aventure Content Square, pour toi, elle est terminée? C'est parce que tu es arrivé au bout de ce que tu voulais mettre en place?
Ouais, bah c'est des postes qui sont forcément... je cherche le mot en français, mais front-loaded. Mm. Quand je suis arrivée, on avait... tout mis dans ma team, vraiment, genre. Donc en fait, quand on parle d'impact, mais pour mettre un peu de l'ordre dans ce bazar, en fait, il y a deux choses. Il y a l'impact, il y a la responsabilité. L'impact, c'est ce que j'appelle le tech for good. Donc vraiment, comment on peut changer le monde en utilisant notre produit. Donc c'est très, très, très tourné vers l'externe. Et ensuite, il y a la responsabilité qui est ce que j'appellerais le tech for not bad. Qui est très tournée vers l'interne. L'objectif, c'est à la fois de maximiser l'impact potentiel d'une boîte, mais aussi de minimiser les dégâts réels d'une boîte. Et par ça, je veux dire, si on ne fait rien, forcément, on va faire n'importe quoi d'un point de vue de diversité et d'inclusion. Forcément, on va polluer et ça pourrait être encore pire par rapport à notre empreinte carbone quand on ne fait pas attention aux bonnes choses. Si on est dépendant uniquement de la réglementation qui est souvent assez floue pour des choses, par exemple, qui gouvernent l'utilisation des données ou l'IA, privacy, forcément, ce ne sera pas assez et il faut aussi utiliser l'éthique. Donc, en fait, la responsabilité est une volonté avant tout d'être une boîte digne de cette planète et de ce monde, quoi, plus globalement. Alors que l'impact, ça rapproche beaucoup plus à une stratégie produit. Oui. Et du coup, ça veut dire, tout ça pour dire que j'avais tout. Donc en fait, côté impact, l'impact était une sorte de joint venture en vrai mené avec le Chief Product Officer et le Chief Customer Officer. Parce que là où Content Square pourrait avoir le plus grand impact positif, c'est par rapport à les diversités et plus spécifiquement l'accessibilité numérique.
Oui.
Et créer des expériences digitales plus humaines veut dire naturellement plus accessible à des personnes, y compris des personnes porteuses d'handicap. Et il y avait aussi un début de réflexion sur l'éco-conception pour diminuer l'impact carbone, en fait, des sites. Donc ça, forcément, ça, c'est avant tout, en fait, le vrai leader sur ces choses-là, ça reste le Chief Product Officer, Chief Customer, parce que les services de Content Square, qui ressemblent plus à des services de consulting, plus, en fait, étaient sous le Chief Customer Officer. Et moi, là-dedans, en fait, je suis vraiment là pour faire... j'étais comme l'autre CEO. Donc, quand tu fais que du cross-functional, quasiment du programme management, de s'assurer que tout s'articule, en fait, dans la boîte par rapport à ces sujets-là, de motiver les équipes et tout ça. Et puis, ensuite, il y avait aussi côté impact de la fondation, qui était toujours menée par Marion Envier, qui est aussi très tournée vers l'externe. Il y a cette idée que si notre objectif est de faire en sorte que le monde digital soit plus humain, ben, en fait, on n'est pas seul dans ce combat, il y en a d'autres. Et on devrait trouver des manières, en fait, de pouvoir les soutenir. Donc, la fondation était là pour soutenir la recherche. On avait, par exemple, un partenariat avec l'Institut de la Vision sur la recherche sur l'accessibilité numérique, mais aussi pour soutenir l'écosystème open source sur le sujet. Et puis, ensuite, sur la partie RSE, entre guillemets, il y avait diversité et inclusion, qui est traditionnellement un sujet qui est chez les chief people, mais vu que ça dépasse que les sujets people et ça touche aussi ça touche le produit, ça touche le marketing, ça touche qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme chantier, ça touche les plateformes qu'on utilise en interne, les structures des bureaux, voilà, c'était plutôt transverse. Le climat, donc, en fait, notre roadmap net zéro. Et puis, ce qu'on appelle Digital Trust, oui, dans lequel il y a l'éthique et le privacy. Donc, voilà. Donc, en fait, tout était très structuré, très centralisé au sein d'une équipe de 12 personnes, quand même. Et le but a toujours été de décentraliser. Encore le plus grand rêve qu'un Chief Impact Officer pourrait avoir, c'est la disparition de
son poste parce que tout roule.
Donc, on a dû accélérer, je pense, la décentralisation suite à un contexte économique difficile, mais aussi parce que j'étais partie en congé maternité, pour être tout à fait honnête. Aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, tout le monde est un peu rentré chez eux, quoi, entre guillemets.
Et les choses se sont mises en place sur ce sujet-là.
Exactement.
J'ai encore une question pour toi.
Ouais, vas-y.
Je la lance. C'est encore Maya.
Vous avez un message.
Salut Kat, j'ai deux questions pour toi. Tout d'abord, une première question à titre perso. Depuis que je te connais, tu as été fondatrice de ta propre structure, 5x5. Ensuite, tu as travaillé pour une administration de l'État, la French Tech. Et derrière, tu es allée dans une grande scale-up, Content Square. Quelle a été la structure dans laquelle tu t'es sentie le plus épanouie?
Ah, l'entrepreneuriat. Non, l'entrepreneuriat, en fait, c'est tellement chouette de pouvoir créer quelque chose qui te ressemble, tu vois, que ce soit les décos de la bureau, des produits que vous vendiez, avec qui vous décidez de travailler, ne pas travailler, les objectifs que vous voulez atteindre, ce que vous voulez transmettre, une entreprise, une extension, en fait, de qui tu es toi-même. Et je pense, voilà, j'ai beaucoup aimé pouvoir m'exprimer, entre guillemets, à travers l'entrepreneuriat, surtout avec une cofondatrice qui est absolument fabuleuse, Chloé Bonnet, qui aujourd'hui est cofondatrice d'une start-up qui se bat contre l'endométriose. Et voilà, donc surtout parce que je pense que le meilleur incubateur qu'on puisse avoir pour soi-même, le moment où vraiment on teste ses limites et ses rêves, c'est souvent dans l'entrepreneuriat.
Est-ce que ça veut dire que ta prochaine aventure, elle sera entrepreneuriale?
Je pense pas. On ne sait jamais. On rigolait souvent avec mon mari, en fait, en disant si on se lance aujourd'hui, on met en LinkedIn tous les deux stealth mode, launching, qu'on est en train de lancer quelque chose. Qu'est-ce qu'on pourrait lever en mode pre-product, pre-money? Mais en fait, je dis ça pas parce que je n'ai pas envie de le faire, mais en fait... ce qui a fait en sorte que l'entrepreneuriat pour moi soit une si belle aventure, c'était avant tout ma cofondatrice. Moi, je trouve que l'entrepreneuriat est quelque chose où on se sent rapidement très seul, très isolé. Et il y a 10 000 problèmes en fait, qui m'ont arrivé, comme il y a 10 000 moments super aussi. Et je pense que c'est un peu comme le mariage, quoi, dans le sens où moi, je n'étais pas contre. Il fallait encore, fallait-il que je trouve le bon mec. Là, pour le coup, c'est bon. Mais je pense que pour l'entrepreneuriat, c'est pareil. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose que je... Enfin, c'est potentiellement quelque chose que je ferais si je trouvais la bonne personne avec laquelle
lancer une nouvelle aventure.
Ouais.
Et tu as des idées justement sur la suite de ton aventure?
C'est encore trop tôt. Déjà, une vraie grosse bouffée d'oxygène. J'ai une fille, il n'y a pas si longtemps que ça. Et je profite vraiment de cette partie de ma vie pour prendre du recul, pour réfléchir. Bon, après, ça ne va pas durer 2 ans non plus. Hein, donc,
tu viendras nous refaire une annonce.
Ouais, peut-être, peut-être. Avec un peu de chance, je ferai une annonce d'ici quelques mois, mais pour l'instant...
Pour l'instant, tu profites.
Exactement.
Je le disais en introduction, tu es aussi board member à Bruxelles, d'une organisation européenne. Tu veux nous en parler?
Oui, ça s'appelle le European Innovation Council, ou le Conseil d'innovation européenne, qui est une organisation quand même assez, assez exceptionnelle. Numéro un, parce qu'il est doté de 10 milliards pour soutenir l'écosystème deep tech à travers l'Europe, mais également parce que je trouve que ça incarne la volonté de l'Europe aujourd'hui de se positionner un peu plus sur le soutien de ces pépites dans la deep tech et plus spécifiquement dans les technologies dites stratégiques pour l'avenir de l'Europe, qui est un move, je dirais, qui est assez récent.
Et ça, donc, c'est un conseil qui se réunit régulièrement sur tous ces sujets-là.
On dirait comme ça, vu qu'il s'appelle un conseil, mais en fait...
Tu vois, on imagine...
La meilleure manière de le décrire pour les gens qui écoutent ce podcast, qui sont plutôt issus de l'écosystème tech français, c'est que c'est un peu comme si on a mélangé BPI, la mission de French Tech et Bercy, ou en tout cas la direction générale des entreprises de Bercy, mais que sur le sujet de la deep tech, mais au sein d'une seule organisation qui est très, 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 très bruxelloise, au sens, genre, Commission européenne, dans le style.
T'aimes bien finalement quand même revenir toujours aux administrations et...
Ah, là, c'est des forteresses, quoi. Enfin, non, mais tu sais pourquoi, enfin, c'est... J'ai toujours, tu vois, là, je suis dans une période où naturellement, je réfléchis à mon next move. Et c'est intéressant d'être, c'est vraiment un vrai cadeau de la vie, en fait, de pouvoir vraiment prendre ce temps-là. Je ne l'ai pas fait quand j'ai quitté la mission French Tech, tu vois, j'ai enchaîné. Et là, c'est vraiment chouette de pouvoir le faire parce que ça nous aide à poser la question sur où est-ce qu'on pense qu'on pourrait avoir le plus d'impact. Mm-hmm. Et aussi, je pense, là, j'ai fêté mes 40 ans cette année, et on se rend compte aussi que le temps, il n'est pas infini non plus. Donc, tu vois, tout à l'heure, tu as posé des questions sur une boîte. Je dis, en fait, là où j'aurais difficulté par rapport à une boîte, c'est qu'une boîte, c'est un minimum 10 ans. Donc, il faut que je sois 200% sûr que si je me lance dans l'entrepreneuriat, en fait, c'est vraiment ce que j'ai envie de poursuivre pour la suite de ma vie, parce que 10 ans, quand on a 40 ans, c'est beaucoup. Et en fait, donc, on parle de l'impact, mais tu vois, souvent les gens pensent à des entreprises à mission, ils pensent à des bicorps, ils pensent peut-être à des fonds climat, peut-être à des grandes ONG, ou même des petits à des échelles différentes. Mais une chose à laquelle personne n'y pense, pour une raison qui est sans doute relativement triste, c'est l'administration. Mais le scale d'impact que tu peux avoir au sein d'une organisation comme ça est juste totalement inédit, quoi. Le plateforme que tu as aussi pour pouvoir défendre des causes qui te sont chères et pour pouvoir travailler pour quelque chose qui dépasse de très loin, en fait, qui tu es. Hein. Et voilà, enfin, inédit. Après, c'est vrai que... Enfin, je comprends d'un point de vue lifestyle où c'est pas forcément ça qui attire des gens, mais je pense qu'il
y a des choses à faire.
Je pense qu'il y a des choses à faire.
Et une image à dépoussiérer aussi pour donner peut-être plus envie. Parce qu'il y a le côté peut-être fou, peut-être certainement faux ou peut-être vrai, je ne sais pas. Moi, j'aime
ça. Ah non, mais c'est totalement vrai.
Bon.
je pense que c'est totalement vrai. Enfin, je vois, toutes les rumeurs sont vraies.
Mais c'est aussi là, tu as raison, que tu as de l'impact, parce que c'est là que tu peux faire bouger les lignes.
Ouais.
Tu as une partie de ta famille qui est toujours aux Philippines?
Oui, oui, il y a toute ma famille qui est aux Philippines, en fait.
Comment ils voient ton parcours, eux, de là-bas?
En fait, ma mère, surtout, elle est première à partager à peu près tout ce qu'elle voit. Je crois qu'elle a des Google Alerts, en fait, même si elle comprend toujours pas aujourd'hui exactement ce que j'ai fait. Non, ils sont très fiers et ils sont encore, d'autant plus fiers que je pense qu'il y a deux choses. C'est le fait que je m'étais enfuie de chez moi. Mmh. Donc déjà, les gens sont super contents que je ne m'étais pas retrouvée morte, tu vois, dans une station de métro quelque part, retrouvée le lendemain d'une situation sordide. Parce que là, c'est un peu à ça qu'ils pensaient quand je m'étais enfuie de mon pays toute seule. Mais je pense, tu vois, les Philippines est un pays qui a été colonisé pendant 333 ans. Dont le pays, enfin, qui a une identité tellement complexe qu'aujourd'hui, le pays porte le nom d'un roi espagnol.
OK.
Qui a l'anglais comme une des langues officielles et qui a toujours eu une forme de colonisation culturelle à travers les médias parce qu'on parle bien anglais. Donc, en fait, les Philippines, c'est assez intéressant parce que, du coup, quand un Philippin réussit à l'étranger, il voit ça un peu comme une victoire pour tout le pays parce que, tu vois, il s'attendait pas. Mm. Donc, c'est un pays, en fait, qui, aujourd'hui, célèbre vraiment les expatriés, enfin, les personnes qui ont quitté le pays. Il y a toujours, que ce soit des médias, des magazines, des awards et tout ça, est toujours fier en fait de montrer ce que les Philippins sont capables de faire quand on leur donne la chance.
C'est génial.
Ouais.
Alors, avant de reprendre le cours normal de cette émission que nous n'avons pas du tout suivi aujourd'hui, j'ai une dernière question d'Erwan.
Ah.
Et là, tu as peur. Et tu te dis, qu'est-ce qu'il va me poser comme question? Allez, j'envoie.
Vous avez un message.
Elle a un mari exceptionnel qui est dans la tech, qui est une des personnes qui a fait que Eventbrite est aujourd'hui Eventbrite, donc une super start-up, plus qu'une start-up, c'est une énorme société cotée au Nasdaq, je pense d'ailleurs, à San Francisco. Et comment elle a fait, tu vois, pour s'occuper de tous les entrepreneurs de la French Tech et en plus, le soir, quand elle rentre, se taper son entrepreneur de mari à devoir lui parler de ses problèmes d'entrepreneur.
Bah, avec grand plaisir, en vrai. Non, en fait, c'est drôle parce que la manière dont Erwan pose les questions, c'est comme si les deux choses s'y opposent, alors qu'au contraire, en fait, ça faisait en sorte que j'avais une proximité terrain et aussi une source d'information. chez moi, non, mais je pense Renaud et moi, on est intimes, quoi. Enfin, que ce soit quand j'étais entrepreneur et je me lançais pour la première fois et il m'aidait un peu parce que quand il dit il a aidé Eventbrite, il était un des cofondateurs quand même, et c'était le CTO. Donc il m'aidait à mettre en place des premières briques, que ce soit sur la grande stratégie ou des bugs sur le site web.
Ce qui est pratique.
toujours pratique d'avoir un CTO à la maison.
C'est quand même pratique.
on sait jamais quand il faudra démarrer les micro-ondes. À la French Tech, tu vois, quand j'ai fait mon discours de départ, je l'ai remercié parce que, tu sais, pendant les 4 ans où j'étais à la French Tech, je crois que j'ai pas fait le vaisselle une seule fois. Tu vois, moi, j'avais très peur de prendre ce poste parce que je savais que ça allait...
se monopoliser beaucoup.
Ouais, exactement. Et Renaud, il était là, quoi. Enfin, il a vraiment pris beaucoup de coups pendant que j'étais à la French Tech. Et tu vois... Et du coup, pour ça, je suis assez heureuse. Donc non, je pense qu'on s'est beaucoup entraidé, au contraire. Et là, tu vois, Renaud, elle est en train de lancer un fonds, alors que moi, je suis dans une période de réflexion. Donc là, on change un tout petit peu.
Tu fais un peu plus la vaisselle, du coup, là.
Bon...
Non, en fait, c'est la tâche de Renaud, ça.
Bon, y aller. Peut-être pas les vaisselles, mais... Voilà.
Alors, on va reprendre un cours normal d'émission avec quelques rubriques. Alors, on a parlé de pas mal de choses, donc il y en a qu'on va quand même sauter. Mais il y a une rubrique qu'on aime bien chez Feuille Blanche, et dans ce podcast, c'est la claque.
Wow.
De quelle claque, Kat, tu veux nous parler ? En préparant cette émission, tu m'as dit, oh là là, il y en a plein.
Il va pas sortir des claques, des catalogues à claques. Non, il y a une claque dont je pense que j'ai jamais parlé publiquement, qui est... Moi, je trouve dommage, donc merci pour l'opportunité d'en parler, parce que c'est quelque chose qui arrive quand même à beaucoup de femmes. Une semaine après mon tout dernier VivaTech et quelques semaines avant mon dernier jour à l'émission French Tech, je fais une fausse couche. J'étais déjà à 12 semaines et j'étais en parcours PMA, en fait. Donc, voilà. Donc,
tout ce que le parcours PMA veut dire aussi.
Exactement. Et la réalité, c'est que ce n'était pas la première. Donc, la première fois que ça m'est arrivé, c'était un an avant. Et je pense que j'ai géré une façon qui était, je dirais, pas très digne de mon rôle modèle femme, tel qu'on en a parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que je l'ai caché. La première fois que c'était arrivé, j'avais dit juste, enfin, j'étais extrêmement triste parce que à cette époque-là, je connaissais même pas les statistiques. Mmh. Et du coup, quand ça m'est arrivé, bien sûr, naturellement, je pense que c'était la fin du monde et tu vois, j'aurais jamais d'enfant, tout ça. Et tu vois, j'étais très triste et j'avais juste dit à mon équipe que j'avais besoin de d'une semaine. Que je serais relativement injoignable pendant cette période-là. Et du coup, tout de suite, qu'est-ce que fait mon équipe? Moi qui n'ai jamais pris... je ne prenais jamais de jours de congé. Naturellement, ils pensaient que j'avais genre le cancer ou quelque chose comme ça, où il y avait quelque chose de très grave qui les ont beaucoup inquiétés. Mais je n'en avais vraiment pas
parlé. Et quand tu es rentrée, tu n'as rien dit?
J'ai rien dit. J'avais dit à ma chef de cabinet, parce que comme ça, elle pouvait en fait ajuster mon emploi de temps et m'aider à gérer le retour. Mais vraiment, j'en ai pas du tout parlé. Et la deuxième fois, en fait, c'était une période assez mouvementée. Donc, tu vois, juillet pour la French Tech, c'est une période très complexe avec beaucoup de pression, justement. Enfin, VivaTech, toutes les séquences autour de ça. Ma soirée de départ était en quelques semaines. C'était le moment où on allait poser des bilans. Il y avait... une discussion dans les médias et tout ça. Et en fait, cette fois-ci, sans trop réfléchir, j'ai fait un all hands,
ouais,
avec mon équipe. Et je leur ai dit, bah, écoute, en fait, je fais une fausse couche. La réalité, c'est que ce n'était pas la première fois. Mais la première fois que ça m'est arrivé, je n'avais peut-être pas le courage de vous dire ce que je suis en train de dire aujourd'hui, qui est, ça m'est arrivé, je suis très triste. Du coup, je vais devoir me retirer pendant une semaine. Je compte sur vous. J'ai juste besoin de votre solidarité, de votre compassion pendant cette période qui est très complexe pour moi. Et voilà quoi. Et j'avais peur en fait de leur réaction, parce que c'est pas non plus, enfin l'administration, c'est pas non plus une culture où on dévoile ce genre de choses-là. Et c'est aussi pas une culture qui a connu beaucoup de femmes leaders qui auraient pu être dans la même situation dans laquelle j'étais. En tout cas, beaucoup de personnes n'avaient aucun précédent et j'étais assez contente parce qu'après, il y avait beaucoup, je pense, la quasi-totalité de mon équipe qui m'a écrit après ou certaines qui m'ont appelée, mais beaucoup qui m'ont remerciée. Et la réalité, c'est que je l'ai fait pas juste pour moi-même, mais encore, tu vois, quand tu es dans une poste à responsabilité, la manière dont tu vas gérer certaines choses va créer une sorte de précédent pour d'autres femmes qui t'ont peut-être mis sur un piédestal. Et dans la mission French Tech, à l'époque, il y avait beaucoup, beaucoup de jeunes femmes. Et en fait, je me suis dit qu'en faisant ça, tu vois, j'allais créer un précédent qui fait en sorte qu'un jour, si jamais quelque chose comme ça leur arrive, parce que ça arrive quand même...
Très souvent.
Beaucoup trop souvent.
Oui.
Avec tous les tabous, en fait, qui leur rendent très difficile pour des femmes. Elles allaient se souvenir de ce moment-là et se dire qu'en fait, il y a d'autres manières en fait, de gérer la situation.
Oui, et puis on fait pas toujours, la frontière n'est pas hermétique entre ce qui se passe dans ta vie privée et au travail. Et donc, pouvoir aussi partager ça avec ton équipe, comme tu dis, c'est insuffler le rôle modèle et c'est exactement le discours qu'avait aussi Julie Davico, pardon, ouais. Qui est venue à ce micro et qui nous a parlé aussi ouais. d'un parcours de PMA et de la difficulté qu'elle a eue finalement à en parler à ses collaborateurs et collaboratrices, et que si c'était à refaire, elle communiquerait plus facilement en fait sur ouais. ce sujet-là.
Bah, je pense que c'est important parce que jusque-là, on a eu surtout beaucoup de rôles modèles hommes, tu vois, dans des postes de pouvoir. Et ces rôles modèles hommes, bah, ils ne parlent pas de ça parce que ça ne leur arrive pas.
Oui.
Et en fait, je pense en tant que femme, parfois on se culpabilise aussi, on essaie d'émuler du coup ce modèle de leadership de force interne tel qu'on le voit incarné par nos prédécesseurs qui étaient plutôt des hommes. Et tu vois, quand on se retrouve dans ce genre de situation-là, bah c'est, voilà, on a aussi la responsabilité, du coup, de casser ces modèles.
Tout à fait.
Qui, de toute manière, devraient partir avec le temps.
Et il y a encore certainement beaucoup de travail à faire sur l'entrepreneur et la maternité aussi, mm-hmm. pour éviter quelques tabous qu'on peut encore voir dans l'écosystème sur ces sujets-là.
Ouais.
Ouh. Merci d'avoir partagé cet instant de vie avec nous. On rebondit sur l'entrepreneuriat au féminin avec Olivier Mathieu et Thomas Benzazon, mes deux associés sur ce podcast 40 nuances de Next, 40 nuances de Sista. On a voulu créer cette capsule parce que, bah, tu le sais, il n'y avait pas beaucoup de filles, il n'y a toujours pas beaucoup de filles dans les programmes Next 40, même s'il y en a un peu plus au FT 120. Et donc, on a pris le parti de proposer aux bros de choisir une femme entrepreneur qu'ils admirent. Donc, Erwan t'a choisi. Mais moi, j'aime bien poser aussi la question au Sista, de leur demander si elles avaient dû choisir quelqu'un et une femme qu'elles voulaient mettre en avant, une femme entrepreneur, elles auraient choisi qui et pourquoi. Et donc, je te pose la question à toi, Kat. J'imagine que tu avais l'embarras du choix.
Oui, il y a tellement de femmes incroyables dans la French Tech, mais je pense que je vais choisir quelqu'un qui n'a peut-être jamais fait ce genre de podcast, mais qui mérite tellement plus de lumière. C'est une femme qui s'appelle Latifa Danfaka, qui était mon employee number one quand j'étais entrepreneur chez 5x5. Latifa a entre-temps lancé un projet qui s'appelle l'Ermitage, qui est un tiers lieu spécialisé surtout dans l'éco-agriculture et le hacking citoyen en Autriche, et qui aujourd'hui en fait est en train de faire une grande campagne de levée citoyenne pour oui. Poursuivre le projet. Et je pense que c'est parce que déjà c'est quelqu'un que j'admire tellement et qui est quasiment une cofondatrice aussi avec moi. Chloé a tellement été là dès le début, mais parce que je trouve on met pas assez en avant des femmes qui met en place des projets dans les territoires.
Oui.
En Autriche en plus, qui est assez particulier comme commune, à plus de 2 heures de Paris, et aussi qui met en place des modèles d'entrepreneuriat qui privilégient peut-être pas forcément les méga levées des VC, mais plutôt en fait une sorte d'harmonie au sein de leurs écosystèmes respectifs.
Eh bien, merci pour ce coup de projecteur. On ira regarder avec attention. C'est la fin de cette émission. Je voudrais te remercier sincèrement d'être venu au micro et d'avoir partagé ton expérience, ton histoire avec nous. Merci à Erwan d'avoir soufflé ton nom.
Et ou puis, pas.
ou pas, si, si. Et puis, on va suivre de près dans quelques mois ta prochaine annonce d'aventure. Merci, Kat.
Merci.